Je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'épître aux Colossiens. Épître qui, rappelons-nous, est un grand mot pour dire lettre. Lettre aux Colossiens. Et nous allons lire les versets 12 à 20. La semaine dernière, nous avions vu le thème « Lumière et salut ». Et là, ce soir, nous allons voir sur ces quelques versets, sur ces 8 versets, ce qu'on pourrait intituler la prééminence ou la suprématie de Christ. Colossiens chapitre 1, verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. On parle de Jésus. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est à la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu, par lui, tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. La suprématie de Christ. Alors, ça vaut le coup là de rappeler le contexte de cette lettre aux Colossiens. On se rappelle, c'est Paul qui écrit à ces chrétiens qui habitent à Colosse. Lui-même n'a jamais prêché directement. On est dans les années 60 et on l'a déjà lu, Paul se réjouit des bonnes nouvelles qu'il a des chrétiens de Colosse. On a déjà vu ça. Mais on sait aussi que chaque fois que Paul écrit une lettre aux églises, c'était aussi pour régler des soucis, des préoccupations, des défauts de doctrine. Parce que les faux prophètes n'ont pas attendu 2014 pour venir, ils ont commencé dès le départ. Et c'est très important de comprendre le contexte de l'époque. Parce que Paul n'écrit pas juste de belles choses sur Jésus, mais il l'écrit avec une certaine arrière-pensée. Laquelle ? Celle que, à l'époque, il y a beaucoup d'influence. On se retrouve à 2000 ans en arrière. Et c'est là qu'il y a les Socrates, les Platons, etc. Vous savez, tous ces grands philosophes. Et là, on est en pleine influence. Il y avait les influences des philosophies grecques, des philosophies romaines. Il y avait l'influence du judaïsme. Il y avait aussi l'influence de la piété païenne, ceux qui croyaient en plusieurs dieux. Et les chrétiens étaient là dans un contexte philosophico-religieux très disparate. Et à Colosse, il y avait un système religieux qui enseignait, alors essayez de comprendre le principe, d'un dieu. D'ailleurs, il ne l'appelait pas forcément dieu, il l'appelait une sorte de grande puissance. Et là, il disait, voilà, sachez qu'il y a un dieu, il y a une puissance, il y a un être supérieur. Mais cet être supérieur, il est sans relation avec le matériel. C'était la philosophie qui était communiquée. Il n'y a pas de relation entre cet être puissant, ce dieu, et le monde matériel, il n'y a pas de contact. D'ailleurs, il n'y a pas possible. C'est pour ça qu'il est très éloigné des hommes. Et c'est pourquoi, et ça faisait après, à partir de là, ils imaginaient des philosophies religieuses. Ils disaient qu'il existait des sortes de hiérarchies spirituelles pour parler à telle ou telle divinité. Et donc, il y avait des sortes d'intermédiaires. Et parmi ces intermédiaires, il y avait le Christ. Et il y en avait d'autres qui étaient créateurs. Et c'est ainsi qu'il y avait donc une culture un peu bizarre, où en fait les hommes étaient influencés, les chrétiens étaient influencés par cette philosophie à dire il y a peut-être un Dieu, et Christ en fait ne serait qu'un intermédiaire parmi tant d'autres afin d'arriver à cette grande puissance. Alors il y avait beaucoup de spéculations, et vous allez voir, là Paul ne fait que entamer la conversation sur ce thème-là. On verra les autres thèmes, mais c'est pour ça que c'est important de bien lire ce texte en comprenant cette arrière-pensée que Paul a. Non pas seulement de dire, vous savez, Christ il est super, mais de ramener les chrétiens à la vérité biblique. Christ n'est pas seulement un intermédiaire parmi les autres, mais il est supérieur à tout. Et là, on rentre dans le vif du sujet. Par exemple, au verset 13, comme on a eu l'occasion un petit peu de voir ce passage-là, il nous y dit que c'est par Christ que nous avons la délivrance de l'influence des ténèbres. Christ n'est pas seulement un être, un intermédiaire, mais il est celui qui apporte la délivrance, la libération. C'est bien Jésus lui-même qui a dit « Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. » Ne minimisons jamais la puissance de Jésus. Ne limitons jamais Jésus à peut-être un soin, peut-être juste à une aide. Non, il est celui qui nous permet de rentrer dans la délivrance. Il est celui qui nous permet de rentrer dans la guérison. Il est celui qui nous permet de rentrer dans une vie nouvelle. Il est celui qui a la puissance toute efficace contre toutes les puissances spirituelles. Il ne faut pas minimiser, ni par manque de foi, ni en croyant qu'il y a d'autres intermédiaires. Il est dit que c'est lui, et que c'est par lui seul, qu'il y a la délivrance de toutes les formes de ténèbres. Qu'est-ce qu'il nous est dit encore au verset 13? Il nous est parlé le royaume de son Fils bien-aimé. Ça, dis donc, c'est fort. Vous avez des royaumes, vous? Est-ce que vous êtes propriétaire déjà de votre maison? Si on parle de Christ comme étant celui qui a un royaume, ça veut dire qu'il est roi. C'est-à-dire qu'il est souverain. Ce n'est pas un simple serviteur de Dieu. Ce n'est pas un ange puissant. Ce n'est pas un astre ou une puissance spirituelle. Il est propriétaire. Et qui est propriétaire de ce royaume céleste? C'est Dieu lui-même. Et Paul, en train de travailler l'esprit de ses croyants, ne croyez pas que Christ n'est qu'un vulgaire, n'est qu'un intermédiaire, n'est qu'un inférieur. Il est propriétaire, il est roi, il est souverain. Il est au-dessus de tout. Je vous invite à lire à la maison Hébreux chapitre 1er, où là il nous est vraiment parlé de la supériorité de Jésus par rapport à tous les anges justement. Il a un royaume, et puis il est dit qu'il est appelé Fils du bien-aimé. Peut-être que d'autres ont d'autres traductions qui est Fils de son amour. Alors ça, c'est intéressant aussi de réfléchir à ça. Rappelez-vous le jour où Jésus est passé par les eaux du baptême. C'est en Matthieu 3, verset 17 qu'on lit ça. Il est dit qu'une voix se fit entendre des cieux et ses paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. L'amour de Dieu, la plénitude de l'amour de Dieu était centré sur Jésus. Et c'est-à-dire qu'il était plus aimé que nous? Non. Jésus, en tant que fils de l'homme, a été autant aimé que nous, nous sommes aimés de Dieu. Ça, sur ce point-là, il y a égalité. Mais par contre, c'est sur les deux autres points qu'il n'y a plus égalité. Parce que, à la différence de Christ, ou de nous, ça dépend dans quelle phrase, comment je vais commencer ma phrase, Christ, venant sur terre, a pleinement reçu l'amour du Père. Il a accepté pleinement la volonté du Père. Nous, à cause de nos péchés, combien d'années avons-nous erré sur cette terre en étant ennemis de Dieu, comme on l'avait lu avant? Vous étiez ennemis étrangers. Nous sommes incapables, par notre nature mauvaise, de pouvoir apprécier tout l'amour de Dieu à sa juste mesure. Regardez, même quand on loue, quand on bénit le Seigneur, même quand notre cœur est rempli de reconnaissance, comme on se sent tellement petit. Quand même nos mots sont incapables de définir tout ça. Et malheureusement, même dans la plus grande exaltation de notre cœur, on n'est pas toujours comme ça. La différence de Jésus, c'est que nous ne sommes pas capables de recevoir tout l'amour de Dieu. Et pire encore, si nous sommes aimés de Dieu, est-ce qu'on est capable de lui rendre cet amour? Non. Par contre, Jésus, oui. Jésus lui-même disait, je fais la joie de mon Père parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Et c'est comme ça que, effectivement, Christ était le Fils bien-aimé de Dieu. Parce qu'il y avait en lui cette plénitude d'être parfaitement aimé pour ce qu'il est, mais également cette aptitude qu'il avait de pouvoir recevoir cet amour et de pouvoir rendre cet amour sans péché. Chose qui, à nous, est bien incapable. Qu'est-ce qu'il nous est encore dit sur Jésus? Au verset 14, que par lui, nous avons la rédemption, c'est-à-dire le pardon des péchés. Il y a une histoire comme ça dans la Bible. Un homme qui était paralytique et Jésus a dit, qu'est-ce qui est plus facile de dire à cet homme? Tes péchés sont pardonnés, ou de dire à cet homme, lève-toi et marche? Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te le dis, lève-toi et marche. Cet homme se mit à marcher. Alléluia! Eh ben non! Ils n'étaient pas contents, les religieux. Ils n'étaient pas contents du tout. Il n'y avait aucun alléluia ce jour-là. Mais c'est pas possible. Qui c'est cet homme? Il blasphème! Qui est-il pour pardonner les péchés? Et en ce sens, ils avaient raison. Qui peut pardonner les péchés? Mamie, tu peux pardonner les péchés, toi? Eh non! Personne, aucun être humain ne peut pardonner les péchés. Dieu seul peut pardonner les péchés. Ah oui, ça aurait pu être un extraordinaire alléluia. Parce qu'effectivement, Christ est Dieu. Et il pardonne les péchés. Alléluia. Mais c'était un grand problématique pour ces hommes. Dieu seul peut pardonner les péchés. Oui, et bien ouvrez les yeux et croyez. Mais ça veut dire quoi? Que ce Fils, que ce Jésus, que ce Christ n'est pas seulement un intermédiaire pour arriver à Dieu. Il est Dieu qui pardonne les péchés. C'est pas fini. Il nous est dit qu'au verset 15, que le Fils est l'image du Dieu invisible. Il est l'image du Dieu invisible. Le, qui signifie unique, il n'y a pas d'autre. Là encore, ne cherchez pas à gauche, à droite, ne cherchez pas un équivalent, ne recherchez pas auprès de la maman ou auprès d'un cousin. Il est le seul. Il n'y a aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être donnés, si ce n'est le nom de Jésus. Aucun autre nom n'a été donné. Il est l'unique, le seul. Fils, cela ne signifie pas qu'il a été procréé. Fils veut dire qu'il porte la nature de Dieu. Le Fils unique, le Fils. Non pas qu'il était généré, qu'il y ait eu une relation sexuelle, ce serait un blasphème entre Dieu et Marie, tel que l'islam veut nous le faire dire ou croire. Mais il est la nature de Dieu, il est Dieu. Et image, cela signifie qu'il est la représentation visible de Dieu. Dieu est esprit, personne ne peut le voir et personne ne le verra. Peut-être au ciel, est-ce que nous le verrons? Peut-être, parce que nous serons transformés en des corps spirituels qui peut-être nous permettront de voir ce qui est rendu spirituel, mais avec nos yeux charnels, on ne peut pas voir le spirituel. On en sent les conséquences, On voit les agissements, mais on ne peut pas voir Dieu. Alors Dieu a pris un corps humain. Il s'appelait Jésus. Il avait sa carte d'identité. Il est celui qui a rendu visible. En Hébreux chapitre 1, verset 3, il nous est dit que le Fils est le reflet de la gloire et l'empreinte de sa personne. Il le dira lui-même en Jean chapitre 14, verset 9. « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Comment me dis-tu ? Montre-nous le Père. Alors bien sûr, ce n'est pas la barbe de Dieu, ce n'est pas les yeux de Dieu. Dieu est esprit, il n'a pas de forme. C'est pour ça qu'on se rappelle de ce deuxième commandement de ne faire aucune représentation de Dieu. Ce n'est pas l'extérieur qui importait, mais c'était le caractère. Le caractère de Jésus était le caractère de Dieu, est le caractère de Dieu. Ses réactions, ses sentiments, ses mobiles, tout reflétait Dieu lui-même, ce Dieu créateur. Quelle chose extraordinaire. Ah, si nous avions été là. Je ne sais pas en fait si on aurait été meilleurs que les autres. Regardez comme les autres étaient complètement incrédules, comme ses propres disciples avaient du mal à réaliser que derrière ce caractère tellement humain, il y avait Dieu au milieu d'eux. C'est par la suite qu'ils le réaliseront pleinement. Je pense qu'il y a dû avoir des regrets dans les cœurs, de dire oh, « si jamais j'avais réellement réalisé !» Mais ce soir qu'il n'y ait pas de regrets, que ce soir on réalise que Dieu est véritablement là, présent au milieu de nous, et à nous d'ouvrir notre cœur, d'ouvrir notre foi. Qu'est-ce qu'il nous dit au verset 15, deuxième partie du verset 15, qu'il est le premier-né de toute la création. Ah là, les témoins de Jéhovah seraient ravis avec ce verset-là. Vous voyez ? Jésus a été créé ! C'est pas Dieu ! Il est créé ! Alors forcément, je suis d'accord. Si on résume la Bible à ce bout de verset, effectivement, on peut dire le premier-né de toute la création. Ça voudrait dire qu'il est l'aîné, qu'il est le premier de la création. Mais ce n'est pas du tout le sens. D'ailleurs, avant et surtout après, on va voir que c'est lui qui a créé toute chose et vraiment toute chose. Donc ce n'est pas le sens que ce verset veut dire. Nous, dans notre culture européenne, on a perdu cette notion-là. Mais à l'époque, un premier-né, c'était celui qui recevait autorité, droit, héritage, pouvoir. C'était celui qui devenait le patriarche après la mort du père. C'était lui qui, du fait qu'il soit né le premier en tant qu'homme, c'était lui qui reprenait la charge, les intérêts, la force et les autorités et tout ce qui va avec. Et c'est ça que veut dire ce verset-là. Christ est le premier-né de toute la création. Il a le droit d'aînesse, il est l'héritier de tout. C'est pour ça qu'il est écrit encore en Hébreux chapitre 1, verset 2, « Dieu l'a établi héritier de toute chose. » Et c'est ça que ça veut dire qu'il est le premier-né de toute la création. Car, et là on comprend la suite, car, ça veut dire c'est une conséquence, car en lui, tout a été créé. Tout. On ne se pose pas la question, c'est tout. Tout ce qu'on peut imaginer, le visible et l'invisible. J'ai presque envie de dire le réel et l'irréel. Pourquoi je parle d'irréel ? Parce qu'aujourd'hui encore, les scientifiques sont en train de regarder l'univers, ils sont en train de dire qu'il n'y a que 4% qu'on arrive à comprendre, le 95% du reste, on ne comprend même pas ce que c'est. C'est de la matière noire, on ne sait pas ce que c'est. C'est physique, mais à la fois c'est invisible, c'est matériel, mais c'est à la fois immatériel, c'est à la fois... c'est comme une sorte de force. Ils n'arrivent même pas à le définir. Dieu l'a créé. Ce que l'on sait comme ce qu'on ne sait pas, Dieu a tout créé, tout. Le système, le temps, même les notions. Tu nous diras même que le bon jour, enfin les jours bons et les jours mauvais, Dieu en est aussi à l'origine. N'est-ce pas là encore un attribut divin ? Et disons-le bien, Jésus n'a pas créé une partie, il a tout créé. Par lui et pour lui. Alors ne croyez pas qu'il y a là une notion d'égoïsme. Vous savez, je ne sais pas si vous avez remarqué les enfants là. Même quand c'est pas eux, ils disent c'est à moi. Non, c'est pas toi, c'est à moi. Les enfants, ils ont cette tendance à vouloir toujours tout rapprocher à eux. Je comprends pas pourquoi. Et à partir de 2 ans, 3 ans, à moi. Non, c'est pas. C'est à moi. Non, à moi. Mais ça, c'est pas du tout la logique de ce verset-là. Dieu n'est pas celui qui a tout créé pour lui avec. C'est pas le sens du verset. Mais le sens du verset dit que Dieu a créé toute chose. Et que toute chose trouve son sens en lui, sa raison d'être, le but. Chaque chose a été créée pour un but. Bien souvent, on réfléchit beaucoup par rapport à nous, à nos émotions, à nos ressentis, à notre compréhension, à nos intérêts. Et on fonctionne beaucoup par rapport à ça, à nous. Nous sommes le centre du monde. La Bible nous dit non, ce n'est pas toi le centre du monde. Christ est le centre du monde. Tout a été créé pour lui et tout a un sens en lui. Et toutes nos manières de réfléchir, on verra ça tout à l'heure, tout ce que nous faisons, on doit toujours le chercher à comprendre le sens par rapport à lui. Si nous sortons Christ de nos vies, des moindres détails de notre vie, alors nous ne trouverons aucun sens à rien. Mais si nous réalisons que tout, même les moindres détails de notre vie, ont un sens, une raison d'être en Christ, alors nous comprendrons que les moindres détails de notre vie est important. Parce que Dieu s'en sert. Et Dieu a une finalité, il y a un but au travers des moindres détails de notre vie. Il est avant, verset 17, il est avant toute chose. Ça nous parle de son éternité. Et là encore, est-il nécessaire de rappeler que Dieu seul est éternel. Dieu seul. Donc il est encore là, celui qui devant l'éternité est. Verset 17, deuxième partie, nous dit que tout subsiste en lui. Ça parle de la pérennité, la continuité. La Bible nous dit que les choses visibles sont éphémères et les choses invisibles demeurent éternelles. Alors, tant pis, nous allons vieillir, nous allons avoir des rides, nos os vont nous faire mal, n'est-ce pas, mamie? Mais quand on regarde l'échelle de l'éternité, c'est grand comment l'éternité? Ça? Un peu plus? Bon, alors essayez d'imaginer dans notre esprit l'échelle de l'éternité, c'est bon? Maintenant, par rapport à ça, faites un trait qui représente la longueur de votre vie. Ok? C'est rien. C'est même pas une poussière. Et nous, bien souvent, combien est-ce qu'on fixe notre attention sur ce micronième de poussière par rapport à l'éternité? Mais la parole de Dieu nous invite à réaliser que tout subsiste. Les choses qui demeureront éternellement se font en lui. D'ailleurs, il le dira. Il n'y a que l'amour qui demeure éternellement. Jésus le dira encore en Jean chapitre 15, verset 5, quand il dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Bah si, on fait plein de choses sans Christ. Mais si on veut qu'il y ait du fruit pour l'éternité, c'est en lui que ça se fait. Et d'ailleurs, Jésus le dira en Matthieu chapitre 15, verset 13. « Toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera retranchée. » Et c'est là que nous, on doit toujours, en tant que chrétiens, se dire « Est-ce que ce que je le fais selon la volonté de Dieu ?» Est-ce que les actes que je pose, je les fais au nom de Christ? Est-ce que je les fais? Alors, il n'est pas question d'être supra-spirituel et encore moins d'être mystique, mais de les faire avec l'approbation du Seigneur, avec la mentalité du Seigneur, avec la volonté. Et on se rappelle la prière que les pasteurs de l'époque faisaient, qu'ils voulaient que chaque chrétien soit rempli de la connaissance de la volonté de Dieu. Eh oui! Et là, on comprend que tout a un sens. Est-ce que chaque chose que je le fais parce que c'est le Seigneur qui se réjouit de ce que je fais? Et ça, la Bible nous dit que les actes que nous posons, que nous faisons au nom de Christ, ça demeurera éternellement. Il est la tête du corps de l'Église, il est le chef de l'Église. Combien encore nous devons fermer la bouche de tous ceux qui veulent nous faire croire que Dieu passe par leur association, par leur institut, par leur fédération, par leurs institutions, par leurs organes bien-pensants. Christ est le chef de l'Église. Amen. Christ est Christ seul. Et en tant que chrétien, nous devons avoir jour après jour cette communication, non pas avec le pasteur, mais avec le Seigneur, avec le Roi des Rois. C'est lui qui nous parle, c'est lui qui nous influence, c'est lui qui nous stimule, c'est lui qui pardonne et c'est lui qui nous sauve. Il est le commencement. Mais oui, il est le commencement de tout. Il est le commencement de la création. Il est le commencement de la foi. Il est le commencement de la nouvelle naissance. Il est le commencement de l'Église. Il est le commencement de la vie éternelle. Il est tellement important de revenir aux fondamentaux. Comment commence la Bible ? Au commencement, Dieu. Voilà. Tout est pourrait résumer à ça. Au commencement, Dieu. Il nous est dit après qu'il est le premier-né d'entre les morts. Qu'est-ce que veut dire cette expression ? Ça veut dire qu'il est le premier à être ressuscité sans avoir besoin de retourner à la mort. Il y a d'autres ressuscités qui, dans la Bible, Lazare a été ressuscité, et dans l'Ancien Testament, Élisée a ressuscité des personnages, et Jésus a même ressuscité d'autres personnes. Il y a déjà eu des gens qui sont morts et qui ont été ressuscités. Mais quelques années après, ils sont morts. Christ est mort. Il est ressuscité et il vit éternellement. Amen. Il est le premier né d'entre les morts. Et pourquoi est-ce qu'il est dit le premier né ? Parce que nous, enfants de Dieu, si nous avons confessé nos péchés, si nous avons réconcilié avec Christ, si la vie nouvelle est entrée dans notre cœur, alors oui, on va mourir. Mais la Bible nous parle d'une résurrection pour vivre éternellement avec lui. Alléluia. Actuellement, il est le premier né d'entre les morts. Et pourquoi ? Afin d'être en tout le premier. Et effectivement, quand on réalise tout ce qu'on vient de dire là, mes bien-aimés, effectivement, dans nos pensées, dans nos actions, dans nos paroles, dans nos motivations, dans nos mobiles, dans nos aspirations, alors on comprend qu'il doit être le premier. Étant donné que on va pas tout relire tout ce qui a été dit, mais tout a été créé pour lui, et par lui et pour lui. Il est le commencement de tout, il est la finalité de tout. Il est celui qui nous dit que s'il n'est pas l'initiative de choses, les choses ne demeureront pas. Mais alors il veut afin d'être en tout le premier. Et dans nos cœurs, il doit être le premier. Dans nos motivations, il doit être le premier. Dans nos projets, il doit être le premier. Dans nos recherches, il doit être le premier. Dans nos faits, dans nos gestes, il doit être le premier. J'ai presque envie de dire que c'est ce qui caractérise un disciple. C'est ça, un disciple. Dieu, il est où ? Il est à la fin de tes projets ? Au milieu de tes projets, sous-entendu, oh, je fais mes choses et puis Seigneur, viens dans mes projets ? Ou est-ce qu'il est le premier dans nos projets ? Seigneur, inspire-moi, motive-moi. Toute plénitude, nous dit le verset 19, Dieu a fait résider toute plénitude en lui, mais là aussi, j'ai presque envie de dire que plénitude, ce serait presque un synonyme de Dieu. Dieu est plénitude, il n'y a que lui qui est plénitude. Et là, Paul rappelle que oui, Christ était homme, et parfaitement homme, mais il était aussi parfaitement Dieu. Il avait une enveloppe parfaitement mortelle, misérable, charnelle, mais à l'intérieur, il était aussi parfaitement Dieu. Du caractère de Dieu, de l'amour de Dieu, des pensées de Dieu. Il était sans péché, il était pur, il était juste, motivé par la raison même de vivre. Verset 20, il nous dit qu'il a tout réconcilié avec lui-même. Tout réconcilié avec lui-même. Alors je crois que quand Paul écrit ça, il est en train de rappeler à tous ces gens qui pensaient à des hiérarchies spirituelles, qu'il fallait des intermédiaires, que Dieu était loin et que peut-être qu'il fallait passer par telle ou telle étape philosophico-religieuse. Il dit stop, stop, arrêtez de vous éparpiller, concentrez-vous sur Christ. C'est lui qui est la réconciliation, c'est lui qui est l'unité, c'est lui qui est la source de tout, c'est lui qui doit être le centre de vos recherches. Ne vous éparpillez pas, ne cherchez pas à comprendre les mystères spirituels ou des hiérarchies angéliques, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est que vous soyez réconciliés, unis avec Christ. Et ce soir encore, la prière qui nous est faite, c'est de prier en son nom. Au nom de Jésus. Et c'est ça la force. D'ailleurs, c'est ce que dit, tout réconcilié sur la terre est comme au ciel. La seule chose qui fera la connexion entre nous et Dieu, ce sera de réaliser que Christ a tout rapproché, que Christ a tout réconcilié. Et le dernier point qui nous est dit à la fin de ce verset 20, par le moyen de la croix. Amen. La croix debout. C'est à la croix que tout converge, c'est à la croix que tout rayonne, c'est à la croix que sont pris toutes nos misères, mais c'est à la croix que vient toute notre délivrance. La croix n'est pas une défaite, la croix est une victoire. Non pas la croix toute seule, mais la croix avec la résurrection. Et que ce soir encore, il nous dit encore dit en hébreu, que nous puissions nous approcher en toute assurance auprès d'une trône de la grâce. Amen. Parce que notre Dieu est un roi, il est souverain, il a reçu toute autorité, toute domination. Mais comme on l'a lu avant, il nous a rendu héritiers de ce royaume. On a tout pleinement en Jésus-Christ. Et ce sera un autre thème justement que Paul continuera de développer. Amen.